Il est 6h30 à Paris et Luanda, 5h30 à Ouagadougou. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. L'AFC M23 n'ira pas à Luanda. Kinshasa enverra tout de même des délégués à la une de cette édition. Les discussions qui n'auront pas lieu finalement entre la République démocratique du Congo et le groupe soutenu par le Rwanda. Les autorités congolaises étaient prêtes pourtant à franchir le pas. Mais c'est donc le groupe armé qui fait volte-face. Quant à l'Union Européenne, elle sanctionne 9 personnalités accusées d'alimenter le conflit dans les Kivu. Une entreprise concernée également, correspondance de Bruxelles dans quelques minutes. Le Niger prend la décision souveraine, dit-il, de quitter l'organisation de la francophonie. L'OIF le regrette et indique que le Burkina suit le même chemin. Les employés journalistes contractuels de la VOA, entre autres, priés de fermer les micros. On revient aussi sur un énième décret rageur, tout droit venu du bureau ovale pour couper un signal de presse jugé dispendieux et inutile. Et puis Yaoundé qui se pince le nez, les poubelles débordent dans la capitale camerounaise. Reportage malodorant dans 10 minutes. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, n'enverra donc personne aujourd'hui à Luanda pour les discussions autour d'un cessez-le-feu. Le mouvement armé soutenu par le Rwanda annule sa participation aux rencontres prévues dans la capitale angolaise. Elles auraient été les premières négociations directes avec Kinshasa. Les autorités congolaises étaient prêtes justement à franchir ce pas, bientôt 3 mois après le début de l'offensive du groupe dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Sur le papier, tout était annoncé comme bouclé, mais Patient Ligodi, des indices laissaient en fait planer le doute dès le début.
Dès l'annonce de cette réunion, des signaux indiquaient déjà que la date du 18 mars serait compliquée à tenir. Le premier accro, l'AFC M23 affirmait avoir découvert le communiqué de la médiation sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'invitation officielle envoyée par l'Angola est arrivée, mais elle était adressée à Bertrand Bisimwa en tant que président du M23 et non à Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC. Un détail loin d'être anodin, car dans sa réponse, Bertrand Bisimwa a tenu à clarifier la position du mouvement. Dans une lettre adressée hier au chef de la diplomatie angolaise, il rappelle que le M23 fait partie intégrante de l'AFC et que seule cette dernière est habilitée à mener les négociations directes. Puis, il y a eu les sanctions européennes. Tombées hier, elles visent notamment plusieurs dirigeants de l'AFC M23. Une nouvelle qui, selon le mouvement, n'a fait qu'envenimer la situation. Dans son communiqué, il accuse, je cite, « certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix et de rendre impossibles les discussions ». Alors, cette réunion est-elle seulement reportée? Rien ne semble l'indiquer pour l'instant. Le mouvement affirme que dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. Il annonce donc mettre fin à sa participation au processus.
Patient Ligodi qui évoquait les nouvelles sanctions européennes. Elles ont été annoncées hier, justement, après une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. 9 personnes sous sanction, gel des avoirs, interdiction d'entrée sur le territoire européen, une entreprise concernée également, toutes accusées de contribuer à la poursuite du conflit dans l'est de la RDC. Les 9 personnes sont toutes rwandaises ou congolaises, membres du M23 ou généraux de l'armée rwandaise, à une seule exception, Pierre Benazet, en l'occurrence Francis Kamanzi.
Francis Kamanzi est le directeur de RMB, l'office rwandais des mines et des hydrocarbures. Selon l'Union européenne, les minerais continuent d'être exploités dans les zones contrôlées par le M23 et font l'objet d'un trafic vers le Rwanda où ils sont mêlés à la production rwandaise. Au centre du collimateur des pays qui voulaient des sanctions économiques figure un protocole d'accord signé entre la Commission européenne et le Rwanda pour permettre la fourniture de ce que les Européens classent parmi les matières premières critiques, par exemple coltan, nickel, cobalt ou tungstène. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, prédit la mort de ce protocole d'accord qu'il désigne sous son acronyme anglais MOU.
C'était important qu'il y ait de la force symbolique dans les sanctions édictées, des responsables d'entreprises, notamment en lien avec les minerais. Vous savez que nous avons plaidé aussi pour qu'il y ait une suspension du MOU avec le Rwanda s'agissant des minerais précieux et rares. Dès lors que la personne qui est un peu le grand coordinateur est lui-même concernée par les sanctions, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de veiller à la mise en œuvre de ce MOU.
La Commission européenne n'a pour l'instant annoncé qu'une révision de son protocole d'accord sur les minerais rares avec le Rwanda, mais les 27 la mettent désormais au pied du mur pour y mettre fin. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Dans la foulée de ces annonces, Kigali a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Elle est accusée d'être la principale motrice de ces sanctions financières.
RFI.
Des frappes aériennes il y a 24 heures au Soudan du Sud. L'armée revendique d'avoir frappé Nassir, ville du nord-est du pays, bastion de la milice dite de la White Army, un groupe armé réputé proche du vice-président Riek Machar. Au moins 21 morts et Djouba qui confirme aussi par ailleurs que l'armée ougandaise est bel et bien présente sur son territoire. Au Soudan voisin, ce sont des frappes attribuées au FSR qui font 10 morts au Bamo à Omdurman, ville mitoyenne de Khartoum. Et cela alors que ce week-end, le général Hemeti promettait une intensification de la guerre qui dure depuis bientôt 2 ans, ainsi qu'une multiplication des fronts militaires. Le Niger annonce qu'il se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF ajoute d'ailleurs que le Burkina Faso prend la même décision. Ce sont les autorités de transition de Niamey qui annoncent ce retrait. Et Ouagadougou, de son côté, ne dit rien formellement. Pas d'annonce non plus côté malien, troisième membre de l'Alliance des États du Sahel. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Dans un courrier adressé aux diplomates en poste à Niamey, le ministère nigérien des Affaires étrangères annonce le retrait du pays de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est une décision souveraine, précise la missive. Selon l'OIF, le Burkina Faso, pays voisin, a déjà pris une décision similaire. Les deux pays dirigés par des putschistes sont dans une alliance des États du Sahel avec un troisième pays, le Mali, qui pourrait se prononcer rapidement sur le sujet. Le trio ne cache pas sa volonté de prendre davantage cette distance vis-à-vis de la France, ancienne puissance coloniale. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient déjà été suspendus de l'organisation après les coups d'État qui ont renversé des présidents démocratiquement élus. Ces pays avaient déjà rompu leur coopération militaire avec la France en demandant le départ de chez eux des troupes françaises. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 93 États ou gouvernements. Elle apporte à ses États membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leur politique et mène des actions conformément à ses principales missions, promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Réaction de l'OIF dans les heures qui ont suivi, c'est une décision que l'on déplore mais que l'on respecte, dit une porte-parole. L'OIF considère peut-être qu'elle est un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse. Fermez les guillemets. Le Niger, par ailleurs, objet d'un rapport très critique de la part d'Amnesty International. L'ONG estime que de nombreux droits humains sont bafoués depuis le putsch de juillet 2023. Musellement des voix critiques, non-respect des décisions de justice, atteinte aux libertés fondamentales ou à celles de la presse. Magali Lagrange, l'ONG se fend d'une formule sans appel.
Les droits humains sont piétinés, selon Amnesty International, qui évoque des détentions arbitraires et certaines décisions de justice non respectées. Parmi les cas cités, le président renversé et plusieurs proches, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse à la résidence présidentielle depuis le coup d'État, plusieurs de ses ministres en détention pour des motifs politiques, précise Amnesty. La décision de remise en liberté provisoire de 4 d'entre eux n'a jamais été appliquée. Les violations de la liberté d'expression sont incessantes, l'autocensure semble être devenue la norme, poursuit l'organisation. Des médias internationaux suspendus, tout comme la maison de la presse à Niamey. Dans le viseur également, la société civile. Amnesty cite le cas du secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari, arrêté en décembre, accusé notamment d'atteinte à la défense nationale. Le rapport s'inquiète également de la participation croissante de la DGDSE, les renseignements extérieurs au placement en détention et aux interrogatoires, ainsi que de la création d'un fichier des personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou des infractions qui portent atteinte aux intérêts de la nation, un texte au contour flou qui englobe une longue liste d'infractions.
Magali Lagrange qui parle de la coupure des médias internationaux. On rappelle que RFI a été coupé au Niger une semaine après le coup d'État ou encore que la BBC y a été suspendue 3 mois à la mi-décembre. D'autres médias au bord du gouffre aussi, les médias internationaux publics américains. La brigade du Doge d'Elon Musk fait mettre en congé les personnels de Radio Free Asia, Radio Free Europe ou encore la Voice of America, élément inutile de la bureaucratie fédérale, dit le décret présidentiel qui fait tomber le couperet et qui fait s'étrangler Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. La VOA, rappelle-t-elle, est une radio particulièrement écoutée sur le continent africain, notamment grâce à des programmes en langue locale.
Les productions sont à l'arrêt. On le voit sur le continent africain, en effet, avec de la musique qui est diffusée sur la radio et avec aucune nouvelle production aujourd'hui de produite, en tout cas. Donc l'effet est déjà immédiat. Il faut rappeler que ce média a des émissions non seulement en français, mais aussi dans beaucoup de langues africaines, que ce soit en Haoussa, en Kiswahili, en Bambara, en Wolof, donc vraiment à destination de l'audience africaine. Donc ça va faire évidemment un vide de ne plus pouvoir avoir accès à ce type de contenu. C'est une attaque directe aussi au pluralisme de l'information dans énormément de pays. Et puis Voice of America travaille avec des centaines de journalistes locaux dans les différentes zones en Afrique. Donc là aussi, c'est une mise en danger pour énormément de journalistes. Et puis aussi VOA en Afrique, c'est aussi des émissions spécifiques qui sont reprises sur des médias partenaires africains. Donc c'est aussi des programmes déstabilisés aussi sur des médias africains directement.
Anne Bocandé répondait à Pierre Firsion pour aller plus loin sur la place qu'occupe la VOA dans les paysages audiovisuels du continent. Vous retrouvez sur RFI.fr notre entretien avec le professeur Étienne Damom, invité sur notre antenne hier. La garde nationale tunisienne annonce avoir secouru il y a 24 heures 612 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'Europe. 18 dépouilles ont aussi été retrouvées par les services de cette garde nationale. Les rescapés ont été secourus dans plusieurs opérations dans la région de Sfax. 8 700 000 électeurs, dont quasiment 770 000 nouveaux. La commission électorale de Côte d'Ivoire publie une première ébauche de la liste électorale. Le document a été formellement remis hier aux partis politiques. On y revient dans notre prochaine édition africaine. 6h30, heure d'Abidjan. Que se passe-t-il enfin à Yaoundé, au pont de la gare, à Oléosa, à Mélène? Les poubelles débordent de partout et vomissent leurs détritus sur la chaussée. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Le Premier ministre s'en est alarmé récemment en plein conseil de cabinet avec tout le gouvernement. Plus généralement, c'est l'ensemble de la voirie de la capitale camerounaise qui semble en piètre état, avec des axes défoncés et un éclairage public qui chancelle. Polycarpe Essomba nous donne à entendre et voire même à sentir.
Au lieu du pont de la gare à 500 mètres environ du centre-ville de la capitale, se dresse une poubelle qui a déjà littéralement fondu dans le décor. Du trottoir à la chaussée, les immondices s'étalent sur plusieurs mètres, au grand désarroi des riverains.
On a honte, nous autres, nous qui avions fait les voyages à travers le monde. Nos dirigeants vont à l'extérieur, alors qu'eux-mêmes, dans leur propre pays, ne peuvent pas mettre la propreté. C'est la honte.
Je trouve la ville de Yaoundé excessivement sale. Même les villages ne sont pas comme ça là.
Autre lieu, cette fois au quartier Olézois.
Vraiment, mes frères, vous voyez que c'est invivable ce que vous voyez là. Les voitures n'arrivent plus à évoluer. Les piétons n'arrivent plus à évoluer sur le trottoir. C'est invivable, on ne comprend plus où on va. Cette poubelle est devenue notre star ici au quartier.
Pourtant, au milieu du tas d'immondices, une plaque de la communauté urbaine invite les populations à ne pas jeter là leurs ordures.
Vous voulez que la population fasse comment? Que l'on fasse comment? Il faut d'abord aménager des coins où jeter des ordures avant de poser des plaques qui interdisent à la population de ne plus jeter ou de ne pas déposer les ordures à cet endroit.
Au quartier Mélène, Brigitte, qui tient une boutique à côté d'une poubelle de même nature, s'alarme des odeurs insupportables.
Mais je n'arrive pas à manger ici. Comme là où je suis là, j'ai faim, mais je ne peux pas manger au regard des odeurs que la poubelle là dégage. Je ne peux pas m'alimenter ici. C'est compliqué.
Aux quatre coins de la capitale, les Yaoundéens se désolent du visage que renvoie aujourd'hui leur ville en pointant du doigt les autorités municipales, dont 7 maires d'arrondissement et un maire de ville. Pour les Carpe Somba, Yaoundé, RFI.
Yaoundé, 6h43, je vous laisse avec...